Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawal El Amouchi. Au sommaire, après plusieurs années de débats, la loi créant un droit à l'aide à mourir a été promulguée par Emmanuel Macron. On fait le point dans cette édition. Le ministre des Comptes publics, David Amiel, a présenté des excuses face au piratage massif du fisc et le vol de données de près de 700 000 contribuables. À Gazaville, 6 personnes, dont un enfant, ont été tuées hier par une frappe aérienne israélienne sur le port, selon les autorités sanitaires. Nous l'avons évoqué dans les titres, après plusieurs années de débats, la loi créant un droit à l'aide à mourir a été promulguée par Emmanuel Macron. Le texte validé par le Conseil constitutionnel ouvre un nouveau droit pour certains patients répondant à des critères très stricts. On fait le point avec vous, Inès Gilles.
Et oui, c'est une réforme sociétale majeure du second quinquennat d'Emmanuel Macron. L'aide à mourir est officiellement autorisée en France. Ce texte, validé par le Conseil constitutionnel la semaine dernière, avec quelques réserves, permet à certains patients de s'administrer un produit létal en présence d'un soignant. Si et seulement si le patient ne peut accomplir physiquement le geste, le soignant peut s'en charger. Alors la procédure est très encadrée. Le patient doit être majeur, français ou résident de longue date, être atteint d'une affection grave et incurable en phase terminale ou avancée, souffrir physiquement de manière insupportable et être capable d'exprimer un choix éclairé jusqu'au dernier moment. L'aide à mourir sera menée par un seul médecin, mais elle sollicitera l'intervention d'autres acteurs pour permettre de déterminer si un patient est éligible ou non. Alors le texte n'est pas immédiatement applicable. Avant que les soignants ne soient en mesure de le mettre en pratique, le gouvernement devra publier les décrets d'application nécessaires. Un cercle relativement restreint de pays a déjà ouvert ce droit, de la Belgique aux Pays-Bas, en passant par la Suisse, le Canada ou l'Uruguay. Et cette loi, elle concrétise donc un débat qui a animé la société française pendant plusieurs années et qui a réveillé des clivages sociétaux dans le pays avec la large opposition de milieux religieux ainsi que de certains soignants. La fondation Jérôme Lejeune s'est dite indignée par cette décision, suivie de l'association Les Éligibles et leurs aidants qui dénoncent le danger total de cette loi pour les plus vulnérables. Les 5 saisines qui avaient été adressées au Conseil constitutionnel témoignent de ces débats. Mais de leur côté, les partisans de la réforme saluent une avancée majeure. Emmanuel Macron a évoqué une décision qui parachève un débat démocratique exemplaire, je cite, et Olivier Falorni, auteur de la proposition de loi, s'est félicité d'une très grande avancée qui se concrétise enfin.
Merci Gilles pour toutes ces précisions. Le ministre des Comptes publics, David Amiel, a présenté hier ses excuses face au piratage massif du fisc et le vol de données de près de 700 000 contribuables. L'administration fiscale a reconnu une fuite de données moins sensible sur les successions. Je vous laisse écouter le ministre des Comptes publics.
On imagine sans peine l'état d'esprit de la personne qui apprend que son revenu, son adresse, son courriel, c'est un nombre d'informations liées à sa situation fiscale, le revenu fiscal de référence par exemple, sont potentiellement à la portée de tout acteur malveillant. Comprend cette colère et à chacune des personnes concernées, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire, je tiens à présenter nos excuses. Oui, nos excuses, parce que ce qui est arrivé est insupportable pour les Français et non seulement comprend leur colère, mais je crois pouvoir dire que cette colère, avec la directrice générale des finances publiques, nous la partageons. Et cette colère, elle doit guider notre action pour informer, mais surtout pour protéger et pour protéger mieux encore.
Le ministre des Comptes publics, David Amiel. Dans l'actualité, au Moyen-Orient, à Gaza, 6 personnes, dont un enfant, ont été tuées hier par une frappe aérienne israélienne sur le port, selon les autorités sanitaires. L'Iran a mis en garde les pays du Golfe contre toute assistance à l'armée américaine qui serait considérée comme un soutien aux opérations militaires de Washington contre la République islamique, une déclaration du chef des forces armées iraniennes. Et Israël a accusé la Turquie de représenter une menace en se préparant à envoyer des troupes sur la base aérienne d'Abu Dhuhr en Syrie, sans toutefois revendiquer cette frappe qui a visé cette infrastructure en cours de rénovation. Dans le reste de l'actualité internationale, en Ukraine, une frappe de drone russe contre un bus a tué 4 personnes et en a blessé 4 autres ce matin dans la ville méridionale ukrainienne de Kherson, selon le bureau du procureur régional. Et l'Ukraine et la Russie ont procédé aujourd'hui à un nouvel échange de prisonniers de guerre impliquant 103 personnes dans chaque camp, selon le ministère russe de la Défense. Retour dans l'actualité en France, la vague de chaleur en cours est la deuxième la plus longue jamais enregistrée en France, avec 22 jours de forte chaleur quasi générale sur le pays, selon Météo France. Et on va faire un point incendie, hein. L'incendie du Gros Bessillon, le plus long de l'histoire du Var, est officiellement éteint après un mois de combat et 6300 hectares parcourus, selon la préfecture. Et chez nos voisins en Belgique, les pompiers ont réussi à encercler complètement cette nuit le plus grand incendie de forêt que le pays ait connu depuis un siècle. Mais la situation sur le terrain reste compliquée avec plusieurs reprises de feu, selon les autorités. Le montant du plan global d'accompagnement promis au monde agricole lourdement impacté par les canicules, la sécheresse et les incendies sera dévoilé le 3 septembre, a annoncé la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Dans un tout autre volet, le coût de la vie étudiante continue d'augmenter. Plus 1,66% en 2026 et plus de 35% depuis 2017. Et le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, selon l'UNEF, l'Union nationale des étudiants français, le syndicat estime que le reste à charge mensuel des étudiants atteint désormais 1300 euros, notamment en raison de la hausse des loyers, des transports et de l'alimentation. Pour en parler, Clara Privé, trésorière de l'UNEF.
C'est déjà 74 euros supplémentaires de dépenses par mois et c'est surtout des postes de dépenses à la hausse, notamment comme vous l'avez dit, le logement et les transports. Le logement étant le premier poste de dépenses des étudiants. Et concrètement, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit le fait de faire des choix de manière constante entre se nourrir et acheter des protections périodiques, par exemple, entre se nourrir et se soigner. Entre marcher, prendre les transports ou se nourrir. Donc en fait, aujourd'hui, la vie des étudiants, c'est faire constamment des choix entre telle ou telle dépense à cause de la précarité qui évolue et qui augmente encore cette année.
Et selon votre enquête, les étudiants doivent désormais trouver en moyenne 1300 euros chaque mois pour couvrir leurs dépenses. Après la déduction des aides, comment est-ce qu'ils font face à ce reste à charge qui est devenu élevé?
Le travail, hein, le salariat étudiant, aujourd'hui on sait qu'il y a à peu près un étudiant sur deux qui travaille et ce tout au long de l'année. Et en fait, on voit très bien qu'aujourd'hui, les étudiants, pour la plupart, doivent travailler. Le chiffre, il monte à 80% si on prend également le travail estival. C'est des chiffres qui sont énormes, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, le salariat étudiant, c'est la première cause d'échec à l'université. Donc oui, cette précarité, elle a un impact direct sur la scolarité des étudiants et sur la réussite. C'est le résultat des politiques antisociales de Macron qui amène ce chiffre. C'est un chiffre qui est vertigineux et qui prouve qu'une seule chose, hein, qu'il n'y a pas eu de vraie politique d'investissement de la jeunesse, pour la jeunesse. Donc ça va être le dégel des loyers crous, ça va être l'augmentation des frais d'inscription, ça va être, pour rappel, la première mesure à destination des étudiants d'Emmanuel Macron, c'est quand même en 2017 la baisse des APL. Donc il y a un marqueur politique de précarisation de la jeunesse depuis 2017 et un continuum là-dessus. Et donc aujourd'hui on le voit, finalement le coup de butoir de ces politiques, c'est les deux rapports qui sont sortis récemment. Le premier qui préconise de multiplier par 5 les frais d'inscription, ce qui est absolument énorme. Et le deuxième qui est de familiariser les APL et qui ferait perdre les APL à quasiment 200 000 étudiants sur le rapport. Donc on voit bien que précariser les étudiants, un objectif politique.
Clara Privet, trésorière de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants français. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.